おかしいおかしい。
Avec l'aéron de la présentation.
Bonsoir, exploitation du bois dans la province de l'Équateur. Le gouverneur de cette province interdit l'exportation des grumes brutes. Il affirme défendre les conditions des pauvres et non les intérêts des riches et des multinationales. Pour sa part, le ministre de l'Environnement du gouvernement central estime que cette décision aurait dû être mieux étudiée avant d'être prise. Quelle analyse faire de cette divergence de vues et que faut-il pour que la population de la province de l'Équateur puisse bénéficier de l'exploitation forestière? Participe à cette émission ingénieur José Ilanga, directeur coordonnateur d'études et planification au ministère de l'Environnement du gouvernement central. Ingénieur Ilanga, bonsoir.
Bonsoir.
René Ngongo, représentant de Greenpeace en RDC, également dans ce studio. Monsieur Ngongo, bonsoir.
Bonsoir.
Maître Dismas Mangbengu, secrétaire général sortant du gouvernement provincial de l'Équateur, lui est en ligne. Maître Dismas, bonsoir.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Vos réactions sur l'auditeur, nous les avons déjà. Michel de Kikwito Bandundu, voilà une illustration de l'inconvénient de la décentralisation. L'anarchie en raison des rivalités locales d'une part et de la tendance à faire prévaloir ses intérêts au détriment de ceux de la population. Bavon Moulini de Kisangani en province orientale, comme disent certains observateurs, la RDC est considérée comme un vieux papa qui garde une calebasse pleine de diamants et qui tend la main pour quémander. C'est le moment de rehausser les valeurs de nos ressources afin que nous en bénéficions. Merci de nous suivre à Mbandakama, province de l'Équateur, sur 103.0 FM. Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Le 3 juillet dernier, le gouverneur de la province de l'Équateur a signé un arrêté qui interdit l'évacuation du bois coupé dans cette province sans renégociation préalable des cahiers de charges des exploitants forestiers. Quels sont les enjeux autour de cet arrêté? Réponse avec vous, Dominique Olombi-Mongampangue.
La polémique sur les enjeux du bois coupé à l'Équateur tourne autour du code forestier de 2002 que les initiateurs présentent comme un instrument de lutte contre la pauvreté des populations de l'Équateur. On croyait que c'était ce qui met l'accent sur les faveurs dont les paysans peuvent tirer profit de l'exploitation forestière allait trouver des solutions aux conflits qui opposent d'une part les exploitants forestiers aux communautés locales et d'autre part l'État congolais à ces mêmes communautés. Mais il n'en est rien. 8 ans après la promulgation de ce code forestier, on constate que ce sont toujours et encore les sociétés d'exploitation forestière qui tirent profit de la coupe du bois au détriment des populations qui vivent à la lisière des forêts. Dans les contrées où l'on exploite le bois, les paysans continuent à croupir dans la misère. Les routes sont en mauvais état. Certaines sociétés n'y construisent même pas d'école alors qu'elles ont pris ces engagements dans les cahiers de charges signés avec les représentants des communautés locales. Les bois constituent un atout important pour le développement de l'Équateur. Ce qui explique l'arrêté pris par le gouverneur Jean-Claude Bayindé le 3 juillet dernier portant l'interdiction d'évacuation du bois coupé à l'Équateur avant la signature d'un nouveau cahier de charges renégocié entre les exploitants forestiers et l'autorité provinciale. Un arrêté qui raconte le soutien du réseau des ressources naturelles qui regroupe les ONG du secteur de l'environnement et de la conservation de la nature. Parce que soutient ces réseaux, cette mesure est à faveur des communautés locales qui ne tirent pas profit de leurs forêts exploitées.
Merci Dominique depuis Mbandaka. La mesure d'interdiction d'exportation des grumes brutes dans la province de l'Équateur aurait dû être mieux étudiée avant d'être prise. C'est l'avis du ministre de l'Environnement le week-end au cours d'un point de presse à Kinshasa. Pour José Ndondo Bononge, la province de l'Équateur a plus à perdre qu'à gagner dans cette interdiction. Une décision du gouverneur Jean-Claude Bayindé qui, selon le ministre, va entraîner des conséquences non seulement sur l'emploi des milliers de travailleurs dans le secteur forestier, mais également sur l'image du pays réputé déjà pour le non-respect de ses engagements. On écoute le ministre José Ndondo au micro de Thérèse Bassobi.
C'est pas retenu au texte. Puisque un gouverneur peut changer le comportement par rapport au texte qui existe après qu'il y ait une étude sur les centaines ou les milliers de personnes qui travaillent dans les exploitations forestières. Deux, on doit payer les taxes en bande d'affaires. Sur le ministre de la Finance, il reçoit ces taxes ici. Puisque vous prenez cet argent à la source, il peut très bien dire, nous ne vous envoyons plus, les fonds que nous vous envoyons, la province de l'Équateur est aujourd'hui la province qui reçoit le plus de ressources qui viennent de Kinshasa. Le volume global des transferts de ressources qui se font aujourd'hui de Kinshasa vers l'Équateur est largement supérieur aux 40% que l'Équateur pourrait percevoir sur ses ressources internes. Les décisions ont tant pris de cette nature. Le problème du changement perpétuel, le non-respect de la parole, tout ça, ça compromet le développement.
En réponse au ministre de l'Environnement, le gouverneur de l'Équateur, Jean-Claude Baïndé, déclare défendre les conditions des pauvres et non les intérêts des riches et des multinationales. On écoute Jean-Claude Baïndé, gouverneur de l'Équateur, au téléphone de Lievin Bouinga.
Je prends pour ma part que quand on gère une province comme celle de l'Équateur, je suis très pauvre. Ou si on est originaire de la province de l'Équateur, la meilleure réaction à faire, c'est de partager au sort de cette population de l'Équateur, où on trouve des richesses naturelles assez énormes, mais la population coupée dans la misère la plus totale. Je suis gouverneur de l'Équateur, non pas pour défendre les intérêts des riches et des multinationales, mais je suis gouverneur à la tête de cette province pour défendre les conditions des pauvres. Je crois que nous ne défendons que l'intérêt communautaire, y compris les travailleurs qui sont exploités, surexploités dans les zones où les exploitants forestiers travaillent. C'est cette décision-là qui a motivé à ce que nous puissions prendre l'arrêté interdisant les plantations de bois pour inviter les exploitants forestiers autour d'une table. Le ministre, je le respecte bien, c'est un aîné, doit plutôt m'appuyer sur la décision que j'ai prise pour aider la province de l'Équateur à se développer au regard du cuivre du Katanga qui construit le Katanga, du diamant du Kassai qui construit le Kassai, et que le bois de l'Équateur doit aider la population de l'Équateur à se développer un jour.
De son côté, la secrétaire générale du syndicat des exploitants forestiers contactés dit ne pas comprendre pourquoi ils doivent renégocier avec le gouverneur des cahiers de charges qu'ils ont signés avec les communautés locales. Madame Van den Ven estime que cette procédure viole les textes actuellement en vigueur, textes qui demandent que les exploitants forestiers traitent directement avec les représentants des communautés locales. Ingénieur José Ilanga, je rappelle que vous êtes directeur coordonnateur d'études et planifications au ministère de l'Environnement du gouvernement central, où le cadre a été placé par tous les différents éléments que vous venez de suivre. Comment vous comprenez cette divergence de vue?
Écoutez, loin de moi, l'idée de revenir sur ce que M. le ministre vient de dire assez clairement. Je peux d'abord dire que les contenus de l'arrêté provincial pris par le gouvernement de l'Équateur est totalement en contradiction avec les dispositions constitutionnelles et légales. Par rapport à la Constitution du 18 février 2006, il est purement et très clairement défini les compétences respectives du pouvoir central et des provinces. Je cite un cas, et ce cas est repris dans l'arrêté de M. le gouverneur de l'Équateur, dans le visa, le premier visa. Il est clairement défini que la législation forestière est de la seule compétence du pouvoir central, tandis que son application, je dis bien son application, et de la compétence de province, parce que par rapport à la Constitution de la République. Le deuxième texte légal, c'est la loi portant code forestier, qui a été promulguée en 2002. Et cette loi est encore plus explicite, parce qu'il reconnaît la responsabilité de la gestion, de l'administration, de la conservation et de la police des forêts incombe au ministre ayant les forêts dans ses attributions. Et par rapport à ça, toujours par rapport à cette loi, le ministre peut déléguer en tout ou en partie le pouvoir que lui confère la loi au gouverneur des provinces, à l'exception du pouvoir de réglementation. Alors, en résumé, l'arrêté pris par M. le gouverneur de la province de l'Équateur, qui entend régenter de manière unilatérale le secteur de l'exploitation forestière, s'inscrit en dehors de toute légalité. Nous avons là les deux bases, les textes de base, la Constitution et la loi qui gère aussi bien l'utilisation que la gestion des forêts à travers notre pays. Et nous constatons que l'arrêté qui a été pris est vraiment en dehors des lois nationales. Et lorsque vous voyez le premier visa de l'arrêté, on dit, vu la constitution de la République du Congo, spécialement à cet article 58, il n'y a pas de problème. 195, 198, 202, point 12, 18 et 25, et enfin 204 qui parle de la compétence exclusive des provinces. Et là, ce point-là, 20, stipule clairement que la province doit appliquer et non présenter.
Alors, à comprendre l'intervention du gouverneur Bahindi, vous ne défendez pas les pauvres, hein, vous défendez plutôt les intérêts des riches et des multinationales.
Non, loin de là, parce que nous allons, on parle ici dans, essentiellement des cahiers de charges renégociés. C'est la question que nous nous posons aussi, on renégocie quoi? Parce qu'il y a un modèle de cahiers de charges qui a été, qui est repris, dont la disposition est repris dans le code forestier. Un modèle de cahiers de charges qui est au fait la partie prenante du contrat de concession forestière, que M. le ministre ayant les forêts dans ses attributions doit signer avec les concessionnaires, qui vient d'être publié par l'arrêté du ministre 023 le 7 juin 2010. C'est ce cahier de charges qui va être maintenant proposé avec la facilitation d'un maître d'ouvrage délégué, donc de la société civile, qui va être proposé en négociation directe entre les concessionnaires forestiers et les communautés locales. Et il est clairement stipulé que ce cahier de charges doit reprendre des infrastructures socio-économiques de base. Vous savez, par le passé, on a parlé des cahiers de charges. Nous entendons parler des cahiers de charges. Non, il n'y a pas formellement des cahiers de charges. Il y a eu beaucoup plus de protocoles d'accord et qui n'avaient peut-être pas de valeur. C'est pas qu'ils n'avaient peut-être pas, mais n'avaient pas de valeur socio-économique. Un sac de riz, une tôle, des pannes pour la femme du chef. Non. C'est que le code forestier vient en innovation, c'est-à-dire les réalisations qui doivent être contenues dans ces cahiers de charges doivent être des réalisations socio-économiques de base, des infrastructures socio-économiques, des
écoles,
routes, ainsi de suite, et non l'argent qu'on donnerait à quelqu'un. Donc, moralité, on a établi. On a élaboré un cahier de charges par la société civile et non par le ministère de l'Environnement du gouvernement central. Et ces cahiers de charges vont être, conformément à la disposition du code forestier, par l'arrêté des ministres ayant les forêts dans ses attributions. Alors nous sommes surpris de constater qu'ici, on parle de renégociation d'un cahier de charges qui n'existait pas avant la disposition du gouvernement. Donc, ces cahiers de charges, ce sont des investissements pour la population. Nous allons revenir certainement, parce que nous savons que la deuxième question, c'est qu'est-ce qu'on prévoit pour la population, quelles sont les retombées socio-économiques de l'économie. Nous reviendrons, mais il faudra qu'on sache qu'on ne peut pas ne pas respecter la loi et commencer à s'imaginer des choses en dehors de celle-là.
Merci, ingénieur José Ilanga. Maître Dismas Mangbengu, je rappelle que vous êtes secrétaire général sortant du gouvernement provincial de l'Équateur. L'ingénieur José Ilanga a donné les dispositions légales, hein, en se référant à la Constitution et à la loi portant code forestier. En plus, il y a cet auditeur Katikiro Giulio de Djoulou à l'Équateur qui demande, c'est en vertu de quelles dispositions constitutionnelles que l'autorité provinciale de l'Équateur doit se permettre de prendre des prérogatives d'interdire l'exploitation forestière, et surtout quand on sait bien que la décentralisation n'est pas encore effective sur l'ensemble des institutions politiques du pays. Maître Dismas Mangbengu.
Oui, merci, monsieur le journaliste. Je pense qu'il y a d'abord des précisions que nous devons apporter. On n'a pas interdit l'exploitation forestière, comme venait de le souligner le tout dernier intervenant. Il est vraiment en dehors de ce qui est en train de se discuter sur ce plateau, mais plutôt le gouvernement a interdit l'évacuation de grumes ou de bois coupés dans la province de l'Équateur. Et des deux, la formulation, on va en arriver, la formulation de la réaction de monsieur le ministre du gouvernement central, lorsqu'il a insinué que la décision aurait dû être mieux étudiée avant d'être prise, bon, vous voyez, ça insinue un petit peu le manque de respect vis-à-vis d'autrui, vis-à-vis de son prochain. Et enfin, j'en arrive parce qu'on vient de poser des formes d'illégalité, je vais maintenant essayer. Peut-être nous lisons différemment la Constitution, nous lisons peut-être différemment. J'ai suivi religieusement l'ingénieur Ilanga du ministère de l'Intérieur. Je comprends. Parce que si d'abord il y a divergence de vue, et même s'il y aura divergence de vue dans les points de droit, c'est parce qu'il y a aussi divergence d'intérêt. N'est-ce pas? Et toute conduite de l'homme étant dictée par la loi de l'intérêt, nous comprenons que l'ingénieur Ilanga et le ministre de l'Environnement ont des intérêts qui sont contradictoires aux intérêts de la province de l'Équateur, aux intérêts des populations de la province de l'Équateur, et ils sont les seuls à comprendre leur propre réaction. Journaliste, monsieur le journaliste, donc, il y a d'abord la prenant l'article 58 de la Constitution, qui dit que les filles et fils, n'est-ce pas, ont le droit de jouir des richesses nationales. Mais vous voulez me dire que le bois ne fait pas partie de la richesse nationale? Donc, si on doit citer la richesse nationale, ou on doit citer la richesse nationale, il n'y a que les diamants, il n'y a que de l'or. Et si l'or ou le diamant exploité par la NIBA ou le cuivre qui se trouve au Katanga exploité par la GFAMI, donc il y a que cela qui doit profiter aux filles et fils de l'antique démocratique du Congo, parce qu'il y a que cela comme richesse et non le bois. Bon, je crois qu'il faut réqualifier les choses, il faut réqualifier son langage, il faut qu'on soit sérieux. Ça, c'est un. De deux, lorsque le droit est accordé par la Constitution, et que nous constatons, le code de forestier qu'on est en train de l'ingénieur du langage social de délire à sa manière, a été édicté, promulgué en 2002. Mais depuis 2002 à ce jour, donc le cahier des charges dont on évoque aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est maintenant l'application, donc ça fait 8 ans après. C'est-à-dire, on initie un code et on ne présente pas les mesures d'application parce qu'il faut d'abord s'enrichir, il faut d'abord enrichir les pauvres, il faut rendre richissimes ceux qui sont riches, et il faut rendre ces pauvres richissimes ceux qui sont pauvres. Permettez-moi de passer mal l'expression. Alors, je ne comprends pas. Et donc, nous devons continuer à regarder, nous devons continuer à attendre, même d'ici 50 ans, pendant que les forêts de l'Équateur n'existeront plus, pendant que tous les bois seront déjà transférés en Europe, c'est alors qu'on va commencer à penser, n'est-ce pas, à mettre des mesures d'application. Mais non, voyons aujourd'hui au Bas-Congo, il n'y a plus de forêts. Il n'y a plus de forêt, mais puisqu'on a regardé, il n'y a plus de forêt, c'est fini. Et cette situation risque d'arriver aussi à l'Équateur, si on y prend garde. Donc, également, lorsque l'ingénieur évoque l'article 252.20, moi je crois que veiller à l'application, n'est-ce pas, de la législation nationale. Mais oui, mais l'application suppose quoi? C'est-à-dire, ce texte qui existe, ça fait 10 ans, qu'on n'arrive pas à les appliquer. Mais il faut aider ceux-là qui ne veulent pas les appliquer, à les appliquer tout de suite pour l'intérêt de la province, pour l'intérêt de la population, pour l'intérêt de nos pauvres populations.
Merci.
À Kinshasa, ils sont dans des maisons, bah écoute, ils vivent dans des passages à Kinshasa, ils ne vivent pas la situation à l'intérieur. Allez-y visiter mon frère, monsieur le journaliste. J'étais chez moi à Pembe, à 50 km. Allez voir ce que c'est pour faire là-bas. Mais Sikoko gagne des millions d'euros par an. Allez voir à Monjolongo, c'est que Sikoko a fait à Monjolongo, c'est en face de Bongananga. Mais c'est piteux, c'est pitoyable, c'est regrettable.
Mais
Ilanga, l'ingénieur Ilanga, le ministre, n'est-ce pas, de l'environnement, plutôt que de défendre les intérêts, n'est-ce pas, des pauvres, les intérêts des populations, qui les ont élus d'ailleurs, qui a élu, parce que le ministre élu a été, c'était un élu, et du peuple.
Merci, mais.
Comme le gouverneur de France, il a été élu du peuple. Permettez que je termine.
Ben, pas 10 mars.
L'arrêté en dehors des dispositions
légales,
en dehors des dispositions constitutionnelles et légales.
Merci, maître.
Arrêtez-la et justifiez.
Merci, maître. Permettez que je vous arrête à ce niveau. Nous vous gardons tout au long de cette émission. Le temps de donner la parole à René Ngongo. Vous êtes représentant de Greenpeace en RDC. Je vous vois sourire, hein, René Ngongo. Comment vous analysez pratiquement cette confusion?
Bon, je pense, merci pour la parole. J'étais en train de sourire parce que là, j'assiste à un débat de juriste. Je ne suis pas juriste, donc pas bien qualifié pour interpréter les textes. Mais ce que je retiens, c'est que ce débat montre qu'il y a un profond malaise justement par rapport à ce code forestier qui a été promulgué en 2002. Et dans un contexte qui, il faut le reconnaître, est différent du contexte actuel. En 2002, il n'y avait pas de gouvernement provincial. Et moi, je comprends cela parce que le cas de l'Équateur me rappelle ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps dans la province orientale et aussi dans la province du Bandundu. Et ce que je remarque aussi, c'est que quand on suit les différents intervenants, je crois qu'il y a un problème de dialogue. Je pense qu'on n'a pas suffisamment dialogué parce que j'ai l'impression que tout le monde veut aller à des transformations, à des réformes qui ont pour finalité de rentrer dans ce que les codes nous avaient promis en 2002, la croissance économique, mais aussi la lutte contre la pauvreté. On a parlé tout à l'heure des renégociations des cahiers de charges. Et l'ingénieur a expliqué qu'il n'y a jamais eu de cahiers de charges. Donc, pour la première fois, selon l'esprit du code, on va mettre en place les cahiers de charges. Mais le problème qui est posé, c'est que depuis 2002 à aujourd'hui, il y a quand même 8 ans que les communautés attendent. Et je me place aussi dans la situation de ceux qui vivent cette réalité, qui veulent qu'il y ait du changement, et cette situation va, j'espère, booster les différents acteurs pour qu'on arrive à prendre les décisions et les bonnes dans le sens de la mise en œuvre de ce code forestier. Greenpeace a plusieurs fois souligné la problématique de la mise en œuvre de ces réformes, parce qu'effectivement, sur le terrain, il y a on est en train de vivre une situation transitaire. Et pendant ce temps, les communautés disent, mais pourquoi nous ne signons pas les cahiers de charges? Et en attendant, on a suivi ce langage dans plusieurs sites. On a été à Bumba, mais récemment aussi à Oche. Les communautés qui disent, en attendant qu'on puisse signer ces cahiers de charges, qu'on arrête l'exploitation. Parce que d'un côté, on continue les transitoires, et de l'autre côté, l'exploitation continue son cours normal, on ne sait pas sur quelle base légale. Aujourd'hui, en fait, c'est un incident qui mérite que les différents acteurs se mettent autour d'une table pour mettre en œuvre toutes ces réformes. Parce qu'on a, au niveau du ministère, fait avancer les textes, mais il y a un contraste parce que là où les forêts sont exploitées, les communautés continuent à attendre. Et cette question a été abordée plusieurs fois, non seulement avec les députés au niveau des provinces, mais avec les communautés. Et c'est une opportunité qui nous est offerte, donc, de pouvoir mettre en place les différentes recommandations de tous ces ateliers qui ont été initiés, non seulement par Greenpeace, mais aussi par la société civile, qui a pris position, vous l'avez suivi et bien souligné ici, en faveur des communautés. Moi, je ne pense pas qu'ici, on est en face des gens qui sont contre les communautés qui les ont élus et d'autres qui défendent mieux ces communautés. Il est important que nous puissions nous mettre autour d'une table. Là, je parle vraiment pour l'intérêt de ces communautés. Pour que les cahiers de charges, parce qu'il y a un modèle qui a déjà été proposé, puisse être d'application. Et parce que les modèles des cahiers de charges, c'est ce qui est indispensable à la signature d'un contrat entre le concessionnaire et l'État. Et nous attendons, dit les communautés, pourquoi les concessionnaires continuent les activités en dépit du fait que le cahier de charges n'a pas été signé. Donc il est temps qu'on quitte cette situation transitoire qui fait qu'il y a des mauvaises interprétations de part et d'autre. Et moi, j'en appelle à tous les responsables qu'on puisse voir l'intérêt de ces communautés et l'intérêt de ces forêts, parce que c'est une ressource qui est vitale pour ces communautés, mais aussi pour tous les pays et aussi au niveau planétaire.
Alors, Renoum Gongo, vous évoquez la problématique de mise en pratique de ce code forestier, donc il est impératif que l'on puisse l'actualiser.
Je pense
d'accord
que
au contexte actuel.
Il y a beaucoup de mesures qui ont été prises. L'ingénieur est là pour donner plus de précisions. Et nous ne faisons que demander la mise en œuvre de ces réformes. Parce qu'aujourd'hui, on parle des cahiers de charges. Vous avez suivi, la FIRA a parlé des cahiers de charges qui avaient déjà été signés. Et ça a été rectifié. Là, je remercie l'ingénieur Lang qui a dit ça n'a jamais été des cahiers de charges. C'était des types de contrats où on donnait quelques sacs des sucres, des sachets de sel. C'était des droits de jouissance. On ne peut pas appeler ça cahier de charges. Aujourd'hui, toute la problématique, si je comprends bien l'esprit du gouverneur et de notre intervenant de tout à l'heure, M. Dismas, c'est de mettre en œuvre ces cahiers de charges pour l'intérêt des communautés et pour l'intérêt de la province. Parce que je me mets aussi du côté du gouverneur qui veut avoir, à l'instar des autres provinces qui bénéficient du diamant, qui bénéficient du cuivre, des retombées pour sa province. Et là, je vais en profiter pour, comme on a d'avoir une idée sur la contribution du secteur au niveau national. C'est peut-être ça, c'est ce manque d'informations qui fait que là, au niveau de province, on a l'impression qu'il n'y a aucune contribution du secteur forestier au développement du pays. Si on peut avoir des chiffres par rapport à la contribution, disons l'année dernière ou il y a les deux dernières années, ça pourrait nous aider à comprendre quelle est la contribution
du secteur forestier
au budget national et pour qu'est-ce que ça rapporte à la province de l'Équateur.
Ingénieur José Ilanga, vous avez suivi Maître Dismas Mandengo et René Ngongo, pouvez-vous ramasser les différentes préoccupations?
Non, écoutez, j'ai suivi depuis les préoccupations de l'un et de l'autre. Je reviendrai sur les préoccupations de Maître Dismas. Il est rassuré. Je crois qu'il y a certainement un problème de communication, même au niveau de la province. Lorsqu'on dit que les codes forestiers sont promulgués par la loi 011-2002, n'est pas appliqué, alors que, heureusement, Greenpeace vient de reconnaître que plus de 3/4 des textes d'application du code forestier sont publiés dans les journaux officiels. Je dis bien dans les journaux officiels. Donc, nous sommes disposés à disponibiliser l'information, mais je crois aussi qu'un effort doit être fourni au niveau des provinces pour savoir où en sommes-nous par rapport à l'application des lois. Et toujours par rapport à Maître Dismas, je comprends un peu son irritation à la chose. Je crois que nous devons nous contredire et cheminer ensemble. Mieux vaut une décision bien mûrie et durable plutôt qu'une décision temporaire. Je crois comprendre, nous tous, nous avons compris ici aussi que nous avons eu des cas de protocoles d'accord. Nous avons connu des cas où, je citerai l'exemple, je ne citerai pas le nom de la société ni du territoire, où les tôles données pour la construction d'un hôpital se sont retrouvées dans les chantiers de l'administrateur du territoire ici à Kinshasa. C'est pour cela qu'on se dit, la loi est là, la loi a prévu quelque chose, prenons le temps de l'émirer, prenons le temps de produire des textes d'application et s'assurer que cette fois-ci, nous sommes partis pour de bon. Aussi bien pour la gestion des ressources naturelles dans son ensemble, les forestières en particulier, et pour sur les retombées socio-économiques de cette exploitation forestière au niveau des provinces, au niveau des territoires d'origine du bois. Et vous verrez un peu plus loin que c'est un des avantages du code forestier, une innovation. C'est dire 40% des recettes, résultats de l'exploitation forestière, reviennent à la province. Et dans les 40%, il y a les 25 qui sont utilisés au niveau de la province et 15 pour les territoires d'origine du bois, pour les infrastructures socio-économiques de base. J'insiste là-dessus pour dire qu'il faut que l'exploitation forestière profite à la communauté et non à des individus. Maître, je crois qu'il ne nous a pas bien compris par rapport aux interventions. Personne ne peut être
contre le développement ou les mesures de lutte contre la pauvreté dans une contrée donnée et partant dans la province de l'Équateur. Je crois qu'il y a parfois des interventions beaucoup plus sentimentales et des interventions beaucoup constructives. Je reviens sur l'intervention de Greenpeace. Je crois que je n'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que je suis le Greenpeace a compliqué. Il y a des choses qui se font. L'arsenal juridique est mis en place.
Mais c'est l'application qui
est posée. Vous savez, je donne deux cas. Parmi les innovations, est-ce que Maître Disman, est-ce que certains de nos collègues, partenaires et tout ça savent qu'il y a deux structures importantes qui ont été instituées. L'une par les décrets du Premier ministre, ce qu'on appelle le Conseil national, le Conseil consultatif national des forêts. Et la deuxième par l'arrêté du ministre, conformément au principe de la loi portant code forestier, c'est le Conseil provincial consultatif des forêts. Ce sont des plateformes indispensables. Ça veut dire quoi? Ça sous-entend tout simplement qu'une décision ne peut être remontée au niveau de Kinshasa. Une proposition de décision ne peut être remontée au niveau du gouvernement central sans que la base, toutes les parties prenantes soient impliquées. C'est quoi? Il y a un problème d'information. Les uns et les autres, nous fournissons autant d'efforts. Nous avons un site web. Est-ce qu'il y a combien, puisqu'il y a des cybercafés en mandata, il y a combien
de bons contacts ça?
Nous allons les donner, nous allons passer l'adresse site web du ministère, c'est www.mecnet.cd, donc Congo démocratique. C'est quoi? Ils peuvent entrer là, parcourir autant de fois qu'ils voudront, ils auront l'information à l'aise.
Mais je pense aussi que le ministère a des voies officielles hein, par lesquelles il peut communiquer. Maître Dismas Mambengu, parce que l'ingénieur Ilanga y fait allusion, abordons directement la deuxième partie de cette émission. Que faut-il, d'après vous, pour que la population de la province de l'Équateur puisse bénéficier de façon générale de l'exploitation forestière?
Oui, permettez-moi, avant que je ne réponde directement à cette question, que je fasse un petit mot.
Allez-y rapidement, je vous en prie.
Oui, c'est ce que l'ingénieur vient de dire. Je pense que l'ingénieur, pour lui, le code qui a été promulgué en 2002 et dont les concessionnaires forestiers continuent à traîner les pas pour son application, tout comme le ministère lui-même, qui devait favoriser, n'est-ce pas, l'application de ce code, malheureusement, est en train de piétiner. Bon, est en train de patauger avec les concessionnaires parce que déjà ici, ils profitent. Et je pense qu'ils ne se rendent pas compte que les forêts sont en train de se vider. Et les bois sont en train de... À quand viendra cette application? Lorsqu'il faut aujourd'hui planer haut et fort pour dire que, n'est-ce pas, l'arrêté du gouverneur n'a pas été mûri. Non, mais je pense qu'il faut quand même partir d'un point. Il faut partir d'un point, ça fait un des deux. Puisqu'on est en train de partir par là, de dire, bon, il n'y a pas eu de dialogue, non, on ne consulte pas le net, on n'est pas informé. Mais nous, on est informé. Mais si on n'a pas été informé, pourquoi on devait arriver à prendre cette émission pour obliger le parti? Parce qu'il y a deux ans, il y a deux ans et demi, le gouverneur Matila a réuni les mêmes concessionnaires forestiers déjà à l'Équateur. N'est-ce pas? Des mesures ont été prises. Où en sommes-nous? Changer la seule taxe, par exemple, n'est-ce pas, pour la superficie, en ce qui concerne la superficie concédée, c'est l'exploitant à l'Équateur doit de 37 millions pour cette année, 37 millions de dollars. Et ils ne veulent pas payer, et c'est comme ça chaque année. Alors, vous voulez que vous puissiez attendre, il faut continuer à attendre jusqu'à ce qu'il y aura plus de bois et notre loi va devenir désuète. Alors, bien, bon, on va se frotter, mais bon, nous avons bien tiré bénéfice. Mais sans sérieux. Bon, merci. Je crois que pour passer à cette deuxième question, que faut-il faire? Je pense que sur le plan historique, je voulais rappeler quelque chose. C'est par le caoutchouc rouge de l'Équateur, autrement appelé Red Rubber, que l'union minière du Haut-Katanga a été construite. C'est par ce même caoutchouc rouge de l'Équateur que la seule métropole, la Belgique, a été construite.
Alors, qu'est-ce que vous voulez dire concrètement, Maître Dismas? Parce qu'on entend beaucoup de temps.
Concrètement, ça dit les bois coupés à l'Équateur, le bois coupé à l'Équateur ne profite pas, n'est-ce pas, la province de l'Équateur. Même quand on vous dit que nous, on reflète de 40%, mais par rapport à tout ce que nous savons, est-ce que ces 40% sont signifiants? Non. Et nous évoluons, c'est pour dire qu'aujourd'hui, pour nous, il faut que tous ces concessionnaires forestiers à l'Équateur s'obligent, n'est-ce pas, à respecter les codes, tout ce qui est prévu par les codes forestiers et ce que la Constitution prévoit. S'il y a des redevances prévues, comme il est dit à l'article 122 du code forestier, des redevances prévues qu'ils ont payées à l'entreprise, il faut effectivement les payer. Si les codes a prévu qu'il faut absolument des cahiers de charges et que ça fait 10 ans, ça fait 8 ans, pardon, ces cahiers de charges n'ont jamais existé. Et qu'on doit se frotter les mains pour que ce cahier de charges n'existe pas. Mais je pense que là, il y a un problème.
Merci.
Et le problème, pour les résoudre, nous devons aller vite. Et nous avons posé un pas pour que le ministère, les concessionnaires et nous puissions nous retrouver autour d'une table. Nous allons parler là où il y a à rectifier. Nous allons rectifier, nous sommes humains.
Merci.
Là où Mandeste est béton. Là où il y a à enrichir, nous allons enrichir. Plutôt que de dire, non, c'est une mesure qui n'a pas été. Non, ça ne sert à rien.
Merci.
Et le plus important, parce que tout le monde souligne qu'il y a besoin du dialogue. Mais le ministre qui s'est rendu compte que l'arrêté, pour lui, ne convenait pas. Et lui, comme le gouverneur, sont tous des fils de l'Équateur. Se sont-ils appelés? Ils se connaissent très bien. Ils ont le numéro de téléphone. Se sont-ils appelés? Non, mon jeune frère, là, je pense que. Mais le dialogue, peut-être, serait nécessaire. Mais tout ce que nous avons posé le premier pas, ça ne sert à rien de reculer.
Merci.
Évoluons. Retrouvons-nous, enrichissons ce qui est enrichi.
Merci, maître.
N'est-ce pas? Et d'abord, ce qui est le plus, évoluons. Merci.
Merci, maître Dismas, René Ngongo. Que faut-il là pour que concrètement les populations de l'Équateur puissent bénéficier de cette exploitation forestière?
En fait, il n'y a pas que les populations de l'Équateur, il y a toutes les provinces
forestières
qui traversent la même situation. Le code forestier, lorsqu'il a été promulgué, avait deux objectifs, c'était la croissance économique, mais aussi la lutte contre la pauvreté. Et quand vous voyez, il y a des articles qui parlent des obligations des exploitants, notamment en termes de construction des infrastructures, des routes, des centres de santé, des écoles. Ça, c'est des éléments qui peuvent aider réellement à ce que les communautés concernées puissent y trouver profit. Mais aussi, les nouveaux modèles, le modèle des cahiers de charges qui est proposé, fait état d'une contribution au prorata des maîtres équipes qui vont sortir des forêts. Donc, il sera question que pour chaque maître équipe, en fonction de la valeur de la grime, puisse laisser un fonds qui va être, j'espère, bien géré pour les intérêts communautaires. Évidemment, lorsqu'on parle d'exploitation, il y a toute la problématique des travailleurs. Parce que jusqu'à présent, ça n'a pas répondu aux attentes parce que ces travailleurs n'ont pas les minima exigés pour leur survie. Et quand les travailleurs sont bien payés, ça a un impact réel. Aujourd'hui, il y a un problème d'impact réel social de l'exploitation pour ces communautés. Je pense que si vous suivez les uns les autres, il y a un problème de dialogue, mais aussi un problème de transparence. Et à l'absence de transparence dans la gestion d'une ressource aussi précieuse que la forêt, il est normal que ça puisse dégénérer. Et parfois, on a suivi des communautés qui sont mises à revendiquer, à barrer les routes d'exploitation, parce qu'il y a un problème. Et beaucoup de mes prédécesseurs l'ont souligné. Il est important qu'on puisse travailler sur l'impact de cette exploitation, mais aussi, tout à l'heure, Dismas a parlé de 37 millions de dollars par rapport à la taxe de superficie. Si il a de bonnes sources, je pense que c'est de l'argent qui peut aider à développer, si c'est seulement pour la province de l'Équateur, je pense que les autres provinces ne sont pas loin des sites. Il est question qu'ils puissent mettre des données justement à la disposition du gouvernement central, du ministère, pour qu'on puisse voir qui a payé, qui n'a pas payé. À ce moment-là, ils peuvent entrer dans les choix. Mais je pense qu'il ne faudrait pas, lorsqu'on parle de forêt, seulement voir l'aspect logique d'exploitation. Il y a aussi, dans les cas de mécanisme, je pense que le ministère est bien placé parce que les ministres nous représentent au niveau international sur tous les débats par rapport aux règles. c'est d'autres opportunités qui peuvent apporter plus à notre pays et même à une province aussi riche comme l'Équateur en termes de retombées des raids et de l'écotourisme.
Un raid pour les auditeurs qui nous ouvrent
l'écran. C'est tout le mécanisme via la réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport à la dégradation et à la déforestation. Et il y a des fonds qui sont prévus pour les communautés et les provinces forestières et qui peuvent apporter de l'or plus que l'exploitation qui a montré jusqu'à présent ses limites en termes d'exploitation. Il faut dire aussi qu'on ne doit pas demander aux exploitants de remplacer l'État en termes de développement. Il est important que l'État puisse envisager d'autres ressources, notamment liées au RED.
Voilà. Ingénieur José Ilanga, il y a des auditeurs qui nous écrivent, Tison Babouki de Mbandaka. Je salue la décision prise par le gouverneur Bayinde. Comment peut-on lutter contre le changement climatique au moment où le paysan croupit dans la misère? Yves Loubouli de Kinshasa, ce dossier soulève en moi des inquiétudes par rapport à la gestion des contrats forestiers qui avait soulevé des soupçons dans le chef du ministre et c'est peut-être cela le fond du problème. Un conflit d'intérêts dans la gestion des exploitants forestiers qui apparemment ne répondent qu'aux instructions de Kinshasa. Et il y a Achille Maté qui dit, cet internaute qui dit, je suis curieux de savoir après cette mesure, quelles sont les retombées qui vont en découler ensuite, qu'est-ce que le gouverneur Bayinde compte faire de ces retombées financières. Brièvement, ingénieur, parce que nous tendons l'entendre sûrement vers la fin de l'émission.
Merci, monsieur le gouverneur. Je crois que j'ai aussi droit à la parole par rapport à la deuxième partie de l'émission.
Exactement.
Je vais dire tout simplement, la meilleure façon, c'est, et je reviens encore sur la loi, la meilleure façon, c'est respecter les dispositions de la loi. Et la loi, la loi qui est déjà en application prévoit quatre sources de recettes, de revenus pour les populations locales. En général, et Corté en particulier, parce que c'est une province à potentiel forestier élevé, donc il y aura des retombées. Et là, je rappelle seulement que, à l'article 36, les communautés locales ont ce qu'on appelle les droits d'usage coutumier. Donc, ils peuvent entrer dans une forêt, même une concession forestière, récolter ce que nous appelons les produits forestiers non humains, les chenilles, les feuilles, tout ce
les champignons
et tout ça. Mais la même loi prévoit aussi que les communautés locales, lorsqu'elles sont bien organisées, elles peuvent solliciter et obtenir des portions forestières pour l'exploitation du bois d'œuvre. Et là, c'est les gouverneurs de province qui signent les permis de coupe ou qui valident les permis de coupe signés entre cette communauté et l'exploitant forestier artisanal. La rétrocession, nous ne revenons pas. Il est prévu la rétrocession de 40%, même si notre existence n'y croit pas. Mais surtout les cahiers de charges. C'est quoi le Greenpeace vient de le dire? Il est prévu des dispositions dans ces modèles de cahiers de charges. La déplaise de ce secrétaire général honoré du gouvernement, et l'équateur, s'il ne veut pas reconnaître qu'il existe un cahier de charges, il est prévu des garde-fous. C'est au prorata de l'exploitation forestière. Une essence de première qualité a une valeur d'autant. De deuxième place d'autant, et la caisse est constituée, gérée par la communauté. Voilà un peu cette innovation de taille qui va faire que les communautés vont dorénavant profiter des retombées de façon correcte, conformément à l'esprit de la loi.
Alors, concluez, ingénieur Ilanga, parce qu'il nous reste une minute pour terminer l'émission.
Non, je vais conclure en disant ceci. Il faut respecter la loi, il faut l'appliquer. Il faut l'appliquer à tous les niveaux. Le ministère de l'Environnement, le gouvernement central, n'a aucun intérêt que la population de l'Équateur coupisse dans la misère alors que cette population est riche à potentiel forestier.
Merci, René Ngongo, allez-y pour votre conclusion.
Il y a beaucoup de textes qui ont été signés. Nous appelons, comme on l'a toujours dit à Greenpeace, la mise en œuvre de ces réformes et que les communautés puissent tirer profit de cette exploitation, mais aussi que la forêt peut nous être utile encore debout parce qu'il y a des enjeux au niveau planétaire qu'il ne faut pas ignorer et qui peuvent rapporter beaucoup plus à la province de l'Équateur et à notre pays.
Maître Dismas Mbengu, un mot également pour conclure.
Oui, merci, merci. Un mot, je veux tout simplement, avant de conclure, je dis de dernier mot, rappeler que...
Allez-y, c'est rapidement, on a plus, on a moins de 30 secondes.
C'est le même ministre, et c'est le même ministre, vous avez, c'est le même ministre qui avait autorisé l'ITB d'exploiter et d'exporter les bois de l'Équateur, sans passer par la commission interministérielle instituée à cet effet.
Merci, Maître Dismas Mambengo. Désolé de vous couper, on n'a plus le temps, l'émission est terminée. Merci à vous qui avez été des millions à nous suivre à travers le monde grâce à notre site internet radiokp.net. Vous pouvez retrouver cette émission sur ce même site. Restez branchés sur Radio Kp. Thank you.